Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, livre 3e.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Beaucoup de Français et d'étrangers ont été justement touchés par l'incendie qui a récemment frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet édifice médiéval, débuté en 1163, a effectivement traversé l'histoire de la France et a été visité par beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, la chronique que nous vous proposons est focalisée sur le XIXe siècle, car bien sûr, Notre-Dame est un grand monument du Moyen-Âge, mais elle a connu une histoire importante au siècle de Napoléon et de Victor Hugo. Je vous propose de mettre la focale sur trois éléments qui se sont passés autour de Notre-Dame de Paris. D'abord, un événement politique, le sacre de Napoléon. Pendant la Révolution, la cathédrale de Paris avait été fermée et en 1794, on avait même organisé des mascarades religieuses à l'intérieur du vénérable édifice. Bonaparte, ayant signé le concordat avec l'Église en 1801, a favorisé le retour du culte dans la cathédrale et lui-même, d'ailleurs, est venu pour la messe de Pâques 1802, le 18 avril. Et c'est donc à Notre-Dame que Napoléon décide d'être sacré en 1804. C'est le 18 mai 1804 que un senatus consulte avait proclamé l'Empire français. Napoléon avait obtenu que le pape Pie VII vienne à Paris, et donc il avait fait de Notre-Dame l'écrin dans lequel devait avoir lieu le couronnement. C'est un moment extraordinaire sans doute pour ce petit officier corse devenu général en 1796, premier consul en 1799 et qui donc allait être proclamé empereur des Français. À 11h du matin, ce 2 décembre, une salve de 101 coups de canon est tirée depuis la rive droite de la Seine, annonçant que Napoléon vient de quitter le palais des Tuileries. Il gagne la cathédrale dans un carrosse tiré par 8 chevaux et précédé par 10 000 cavaliers, des chasseurs, des cuirassés, des mamelouks, des hussards. On estime à 500 000 spectateurs les Français et les étrangers qui assistent à l'événement. À l'intérieur de la cathédrale, tout le banc et l'arrière-bran de l'Empire est là. On retrouve Talleyrand, qui était déjà habitué au faste de la cour de Versailles, mais également les maréchaux d'Empire, Bessières, Lannes, Murat, Soult, Ney. Il y a également les familiers de l'empereur, ses frères et sœurs. Par contre, la mère de Napoléon est absente, même si David la représentera dans son fameux tableau. Il y a peu d'ambassadeurs européens, puisque en 1804, la France est en guerre avec les principales puissances. Néanmoins, il y a le représentant du sultan ottoman, coiffé d'un turban à l'intérieur de la cathédrale. Pie VII, nous l'avons dit, a fait le déplacement depuis Rome. Mais à vrai dire, il ne va pas lui-même couronner Napoléon, qui va se poser la couronne sur la tête. Le deuxième moment est un moment littéraire. C'est bien sûr le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Cette œuvre est en fait une œuvre de commande demandée par Charles Gosselin qui a proposé à Victor Hugo de faire un grand roman historique à l'image de ce qu'avait pu faire Walter Scott avec Ivanhoé. C'est donc au début du mois de juillet 1830 que Victor Hugo, âgé à ce moment-là de 29 ans, se met au travail. Son écriture est d'ailleurs interrompue par les événements politiques du mois de juillet, puisque la révolution de juillet 1830 va renverser Charles X et va permettre la montée sur le trône de Louis-Philippe Ier, roi des Français. D'ailleurs, il est fort probable que cet événement, où le peuple de Paris a joué un rôle important, a influencé l'écriture de Victor Hugo, qui fait du peuple de Paris, dans son monument littéraire qu'est le roman Notre-Dame de Paris, un élément à part entière, un acteur à part entière du roman. Celui-ci est terminé au mois de mars 1831 et peut donc sortir. C'est un succès très important, avec, il est vrai, à la fois une période, 1482, puisque nous nous situons à la fin du règne de Louis XI, et puis des personnages qui ont marqué tous ceux qui ont lu le roman ou qui ont vu les films qui en ont été tirés. On pense à Esmeralda, la bohémienne, à Claude Frollo, l'archiprêtre de Notre-Dame, à Gringoire, ce poète amoureux, et Phébus, ce militaire au service de la couronne de France et qui va finalement lui aussi être amoureux d'Esmeralda. Dans ce roman, Victor Hugo, qui est sensible aux questions du patrimoine, va d'ailleurs critiquer ce qu'avaient pu faire au cours des siècles précédents les architectes autour de la vieille cathédrale. Voici ce qu'il écrit. « Sans doute, c'est encore aujourd'hui un majestueux et sublime édifice que l'église de Notre-Dame de Paris. Mais si belle qu'elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s'indigner devant les dégradations, les mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument. Sur la face de cette vieille reine de nos cathédrales, à côté d'une ride, on trouve toujours une cicatrice. Tempus et Dax, homo et Dacior, ce que je traduirais volontiers ainsi, le temps est aveugle, l'homme est stupide. Si nous avions le loisir d'examiner une à une avec le lecteur les diverses traces de destruction imprimées à l'antique église, la part du temps serait la moindre, la pire celle des hommes, surtout des hommes de l'art. Il faut bien que je dise des hommes de l'art, puisqu'il y a eu des individus qui ont pris la qualité d'architecte dans les deux derniers siècles. Le troisième moment que je vous propose est un moment architectural autour de Notre-Dame. C'est la campagne de restauration qu'a entreprise Eugène Viollet-le-Duc à partir de 1844. Celui-ci a à ce moment-là 30 ans. Et il a réussi à se faire connaître grâce à la restauration qui a permis de sauver Notre-Dame de Vézelay. Il avait été remarqué par les responsables du patrimoine et en particulier par Prosper Mérimée, que la monarchie de Juillet avait nommé en 1831 comme responsable des monuments de France en tant qu'inspecteur général. Et donc, Viollet-le-Duc a reçu la charge de réaménager, de restaurer la vieille cathédrale. Il va y travailler pendant une vingtaine d'années, en multipliant d'ailleurs au même moment d'autres chantiers, puisqu'il est venu en particulier à Toulouse, travaillant au donjon du Capitole ou à la basilique Saint-Sernin. L'idée que se fait de la restauration Viollet-le-Duc est assez précise, puisque, en fait, selon lui, et je le cite, « restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » Ainsi, Viollet-le-Duc intériorise le fait que l'imagination de l'architecte puisse finalement entrer en jeu dans la restauration d'un bâtiment. Et effectivement, il ne va pas s'en priver. C'est lui qui va doter la cathédrale, à nouveau, de ces rois d'Israël qui avaient été détruits et qui ornaient la façade jusqu'à la Révolution. On les avait confondus avec des rois de France et donc ils avaient été détruits par les révolutionnaires. C'est lui également qui va refaire mettre des statues sur les portes principales de la façade de la cathédrale, la porte Sainte-Anne, la porte du Jugement, la porte Sainte-Marie. Et puis, autre élément aussi important, qui d'ailleurs a joué sans doute sur notre imaginaire de Notre-Dame, c'est lui qui a fait remplacer les tuyaux de plomb installés au XVIIIe siècle par des gargouilles, ces créatures fantastiques toute droite sortie de son imagination. D'ailleurs, il s'était lui-même fait représenter dans les statues qui ornaient le toit de la cathédrale. Autour de la grande flèche, il avait fait mettre la statue des 12 apôtres. Et la figure de saint Thomas était en fait le visage de Eugène Viollet-le-Duc, dans la mesure où Thomas était le patron des architectes. Enfin, dernière innovation, c'est la très grande flèche. Il y a toujours eu une flèche sur Notre-Dame, dès le XIIIe siècle. Il y en avait eu une autre au XVIe siècle. Mais celle de Viollet-le-Duc était évidemment prévue pour être plus grande. Elle s'élevait à 93 mètres du sol et pesait 750 tonnes de plomb et de bois. C'est elle qui a disparu dans l'incendie du 15 avril 2019.